Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver ce matin, même si c'est toujours un exercice difficile. Et Emmanuel a bien parlé d'humilité, je crois que c'est tout à fait le mot qui s'applique. Alors 150. 150, c'est le nombre de psaumes que vous avez tous dans vos Bibles. Et personnellement, j'aime beaucoup les psaumes. Et si vous regardez, vous trouverez toujours un psaume qui correspond à votre état d'âme du moment. Joie, louange, tristesse, besoin de réconfort, repentance, etc. On en trouve toujours un. Mais pourquoi le psaume 15 ce matin? Alors, il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Il y a quelques semaines, c'était le dimanche 4 mai, en début de culte, au moment où nous avons tous ouvert notre Bible pour la lecture du temps de louange, je suis tombé, en feuilletant les pages de ma Bible, sur ce psaume, le psaume 15. Alors, Emmanuel l'a déjà lu, on va le relire après, mais je cite juste le verset 1 qui, ce dimanche-là, avait, comme un petit flash, brièvement retenu mon attention. « Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ?» Et j'étais là, comme vous, là, assis sur mon banc. Et je me suis juste dit intérieurement, oui, c'est vrai, Seigneur, qui, en effet, pourra se tenir en ta présence? Parce que c'est finalement la question que pose ce premier verset. On a tellement l'habitude de dire le dimanche matin, bienvenue dans la maison du Seigneur, ou bien, Seigneur, nous voici rassemblés dans ta maison. Mais sommes-nous vraiment les bienvenus aux yeux du Seigneur? Alors, comme c'est un psaume très court, je l'ai rapidement lu en entier. Et puis, je me suis dépêché de reprendre le fil de la lecture qui était sur le programme. Et ce jour-là, on avait lu le psaume 25. C'est pour ça que le psaume 15 était pas loin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le même dimanche, en fin d'après-midi, je suis allé dans mon bureau. Et chez moi, je me suis installé un assez grand plan de travail. Et j'aime beaucoup les livres. Donc, ça me permet d'avoir soit l'ordinateur, soit d'étaler les livres devant moi ou les documents. Et puis, dans le coin à droite de ce plan de travail, j'ai toujours une Bible qui est posée ouverte sur un présentoir incliné pour qu'on puisse, un peu comme ici, pour qu'on puisse lire confortablement et puis facilement tourner les pages. Alors parfois, je remplace cette Bible par un autre livre, pardon, ou bien une autre version de la Bible, mais j'ai une habitude, je pose toujours la même Bible lorsque j'ai fini et je la pose toujours ouverte sur mon petit présentoir. C'est mon habitude. Et c'est ce que j'avais fait quelques jours auparavant, je ne me souviens plus exactement quand, mais en tout cas, elle était posée là, ouverte. Et vous avez deviné à quelle page elle était ouverte? Ben oui, elle était ouverte à la page du psaume 15. Alors là, deux fois le même jour, je me suis dit, là, il y a quelque chose, Seigneur. J'ai alors relu tranquillement ce psaume, parce que je l'avais lu rapidement le matin, et là, ça m'a sauté aux yeux. En tant que chrétien, et j'insiste sur le fait d'être chrétien, c'est important. En tant que chrétien, je ne viens pas dans la présence du Seigneur comme on se rend au McDo. Vous voyez, vous comprenez l'image. Alors, je vous propose de relire ce psaume. Je vais le lire dans une version un peu différente de celle d'Emmanuel. Il s'agit de la traduction Nouvelle Édition de Genève 79. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors ce petit psaume nous invite à réfléchir à cette question: à qui ou à quoi ressemble aux yeux de Dieu quelqu'un de bien? Ou alors dit autrement, à quoi ressemble une vie qui plaît à Dieu? La structure de ce psaume est très, très simple. Au verset 1, David pose la problématique. Qui peut demeurer auprès de Dieu. Après, David fait une réponse, et là, il dresse un portrait qui va du verset 2 jusqu'au début du verset 5, et puis, tout à la fin du psaume, il s'achève sur une promesse de sécurité à la toute fin du verset 5. Alors, on va ce matin regarder chacun des trois points qui forment la structure de ce petit psaume, et on va commencer par la problématique qu'a posée David directement dans le premier verset. Cette problématique, c'est une question qui va gouverner tout le reste du psaume. Qui peut demeurer auprès de Dieu? Alors, d'après vous, à quoi fait référence la tente du verset 1? Si vous avez la traduction du semeur sous les yeux, vous avez la réponse. Lorsqu'il est question de la tente de Dieu, c'est une référence incontournable au premier sanctuaire, le tabernacle, cette tente de la rencontre qui avait été dressée dans le désert. Et le tabernacle comprenait justement ce lieu très saint qui se trouvait au fond de la tente, et c'est là-dedans qu'il y avait le coffre de l'Alliance. Et à cet endroit, seul le grand prêtre pouvait y accéder une fois par an. C'était donc vraiment un lieu qui était sacré et qui était souligné par cette autorisation d'accès unique pour chaque année. Ensuite, si on revient à notre psaume, on a la référence à la montagne sainte. Et la montagne sainte, c'est la montagne de Sion. C'est une montagne pas très haute, en fait, on dirait plutôt une colline, mais c'est là que se trouvait le temple de Jérusalem qui lui a succédé au tabernacle. Et c'est David, avant même la construction du temple, qui avait fait venir le coffre de l'Alliance sur la montagne de Sion, dans l'ancienne Jérusalem, l'ancienne partie de la ville qui porte le nom justement du roi David, la cité de David à Jérusalem. Et cet épisode est rapporté dans 2 Samuel au chapitre 6, si vous voulez le relire chez vous. C'est un psaume de David. Et vous savez aussi, probablement, il y a parfois débat ou alors des interprétations qui divergent à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'un psaume de David, c'est-à-dire c'est lui-même qui l'a écrit, ou bien est-ce que c'est un psaume simplement écrit en l'honneur de David qui faisait partie de son répertoire? La question est ouverte. Parce qu'au temps de David, évidemment, le temple n'a pas encore été construit, puisque c'est son fils, Salomon, qui le fera. Et c'est pour ça qu'il y a certains commentateurs qui pensent que si le psaume est un peu plus tardif, donc qui ne serait pas écrit directement par David, alors il pourrait faire allusion aussi au pèlerinage que faisaient, vous savez, que les Hébreux, les Juifs faisaient un pèlerinage à Jérusalem, et pour ça ils avaient les cantiques et des psaumes qu'ils chantaient en se rendant au temple. Et donc certains pensent que le psaume pourrait s'inscrire dans ce contexte. C'est difficile d'être certain à ce sujet. Il peut y avoir cette référence au pèlerinage, mais ce n'est pas un point majeur. Et de toute façon, on va le voir, il ne faudrait pas réduire la portée de ce psaume uniquement à ce contexte. Dans tous les cas, le mont Sion, dont il est question ici, la montagne sainte, est déjà un lieu de rencontre avec Dieu. Et on a donc ici, clairement, dans ce premier verset, l'évocation du lieu, l'endroit où l'on rencontre Dieu. Et donc ce psaume commence par nous parler, premièrement, de la présence de Dieu, avec cette double image du temple et puis du tabernacle. Et si vous regardez bien, selon les traductions, vous verrez, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe « demeurer ». « Demeurer », c'est un verbe fort. « Demeurer », ça veut dire « avoir son domicile ». Ça n'évoque pas juste une entrée ou un passage rapide, non. Le verbe « demeurer » évoque bien un séjour ou une résidence. Et par conséquent, la question qui est posée au verset 1, devient d'autant plus frappante. Qui pourrait habiter? Qui pourrait résider dans le tabernacle ou le temple de Dieu? Qui pourrait vraiment établir sa résidence, sa demeure, là où Dieu lui-même réside? Qui peut vivre avec Dieu? Dans la traduction du semeur, c'est d'ailleurs le titre qui est donné à ce psaume. Qui peut vivre avec Dieu? Et dans l'Ancien Testament, toute l'organisation du culte était faite pour souligner que Dieu est saint, pour souligner que sa sainteté et sa perfection, en fait, le séparent des hommes. Et on ne peut pas s'approcher de lui à la légère. Et c'était seuls les prêtres qui étaient issus d'une tribu spécialement désignée, la tribu de Lévi, seuls ces prêtres-là avaient le droit, le pouvoir de rentrer dans la tente de la rencontre. Alors regardez avec moi, si vous voulez suivre dans vos Bibles, ce qui est marqué dans Exode, au chapitre 30. On va lire trois versets, les versets 18 à 21. Exode 30, 18 à 21. C'est les consignes que l'Éternel a données à Moïse, justement, pour toute l'organisation du culte. Et donc l'Éternel dit à Moïse, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » Je peux vous dire que même ces prêtres qui étaient désignés pour avoir le droit d'entrer dans la tente de la rencontre n'y allaient certainement pas à la légère. Le tabernacle était un lieu saint. Et il fallait marquer ce besoin de pureté pour entrer dans ce lieu où justement Dieu manifeste sa présence de manière particulière. Et quand on voit donc qu'il y avait un enjeu de vie et de mort sur la manière dont on s'approche simplement de la présence de Dieu, et que là, dans notre psaume, on entend parler de demeurer dans la maison de l'Éternel, on se dit, en tout cas moi je me suis dit, que la barre est quand même, disons-le, inatteignable. Et dans un sens, on doit se dire cela, on doit se poser la question, comment imaginer que quelqu'un puisse séjourner dans la maison de l'Éternel? Et pourtant, le psaume ne va pas nous emmener sur le terrain du rituel pour avoir le droit de s'approcher de Dieu et même de demeurer auprès de lui. On va prendre une toute autre direction. C'est la deuxième partie du psaume, celle où David décrit quelques caractéristiques. Et il y a deux qualités essentielles qu'on peut relever tout de suite au verset 2. Et là, on entre maintenant vraiment au cœur du message de ce psaume. Les deux mots-clés qu'on peut relever et qui nous sont donc donnés au verset 2 sont les mots « intégrité » et « justice ». L'intégrité renvoie au fait d'être tout entier à Dieu avec un accent sur la vérité. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de tordu, il n'y a pas de place pour l'impureté. Et la justice renvoie à la recherche active de ce qui est bon, notamment, on va le voir, avec un regard posé sur l'autre. Une recherche active de ce qui est bon pour l'autre et le fait d'honorer ce qui est bon chez les autres. Alors, il faut noter que la justice, dans ce sens-là, va plus loin que l'équité. C'est pas simplement que les choses soient équitables. C'est très bien. L'équité, on est tous d'accord là-dessus. Mais ici, ça va plus loin. C'est la droiture qui cherche activement le bien. Et alors, en quoi est-ce qu'on voit dans les versets suivants des exemples d'intégrité et de justice? Eh bien, commençons par l'intégrité. Regardez le verset 3. Le premier exemple qui nous est donné ici se trouve dans ce verset. « Il ne calomnie pas avec sa langue. » Ce juste dont il nous est fait le portrait ici, c'est quelqu'un qui ne dit pas du mal. On peut estimer qu'il y a deux façons de calomnier quelqu'un, c'est-à-dire répandre des paroles fausses à son sujet. Alors d'abord, il y a la calomnie ouverte, aller ouvertement mentir à propos de quelqu'un, aller accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas commis ou qu'il n'a pas dit. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, la calomnie, ça a un sens juridique et c'est inscrit dans notre droit. Mais il y a aussi des versions plus subtiles de la calomnie et qui s'apparentent simplement à ce qu'on pourrait appeler de la médisance. On va faire un tri sélectif de ce qu'on va dire d'une personne. On va relever des défauts qui sont peut-être effectivement présents chez cette personne. Mais on va les présenter sous le jour le plus mauvais possible tout en taisant le bien qui pourrait être dit par ailleurs. Et cette forme de calomnie, ou plutôt de médisance, nous guette tous. Et Colossiens 3, verset 8, est très clair. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Et puis à la fin du verset 3, il y a l'affirmation « Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain ». Ça aussi, vous l'avez remarqué, c'est lié à l'usage de la parole. On peut dire là aussi, il y a des façons ouvertes de jeter le déshonneur sur quelqu'un, sur son prochain, l'accuser faussement, le dénigrer, lui faire honte devant d'autres personnes. C'est tout à fait le genre de choses qui peut arriver au travail, dans la cour du lycée ou bien à la fac. Mais pas seulement, on peut jeter le déshonneur sur son prochain, devant la famille, dans sa propre famille ou à l'église. Et on va noter ici que le mot « prochain » renvoie à une réalité très très large. Dans la Bible, le prochain peut être un ami, un compagnon ou une personne qui vit tout près. Jésus a même considéré l'étranger comme un prochain, et pour ça je vous renvoie à la lecture de Luc chapitre 10, c'est la parabole du bon samaritain, et à la question « qui est mon prochain ?» c'est une question qu'a posée un docteur de la loi lors d'un des nombreux échanges avec Jésus. Eh bien, Jésus justement a répondu par la parabole du bon samaritain, et lorsqu'il a terminé sa parabole, il retourne en quelque sorte la question à ce docteur de la loi, et il lui demande, alors, qui s'est montré le prochain de celui qui est tombé victime des brigands? Et là, on voit que Jésus a donné une définition très active du prochain. Mon prochain, c'est celui à qui je peux témoigner de la bonté. En l'occurrence, dans cette parabole, c'est un étranger. Alors, oui, bien sûr, mon prochain, c'est mon frère ou ma sœur dans la foi. Mais ça va plus loin, c'est mon contemporain. C'est celui ou celle qui, comme moi, a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire tous les hommes, en réalité. On a déjà beaucoup évoqué le thème de la parole, le sujet de la parole. Et une question qu'on peut se poser comme un test à faire régulièrement pour notre cœur, la question c'est la suivante. Comment est-ce que je fais usage de ma parole vis-à-vis d'autres personnes au quotidien ? Si je devais faire une sorte d'évaluation, un audit de ma parole, prenons une seule journée. Combien de mots est-ce que j'ai utilisé pour dire ou faire du bien ? Ou à contrario, combien de mots est-ce que j'ai utilisé pour abaisser quelqu'un ? Ou bien le présenter sous un mauvais jour, son plus mauvais jour ? Évidemment, la critique est parfois légitime lorsqu'elle est fondée, lorsqu'elle est constructive ou lorsqu'elle dénonce une injustice. Mais c'est tellement facile d'aller plus loin, d'en rajouter, de forcer un petit peu le trait. Et ce psaume nous amène à voir que l'homme ou la femme que Dieu aimerait voir demeurer dans sa maison, eh bien, c'est quelqu'un qui utilise sa parole pour faire le bien et non le mal. Il y a encore une autre référence à la parole dans ce passage. Et cette référence qu'on va voir dans un instant fait le lien avec l'autre caractéristique. On a parlé d'intégrité, on parlera de justice juste après. Mais d'abord, regardez au verset 4. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Si je m'engage à quelque chose et que je ne le tiens pas, eh bien, je dois en assumer les conséquences. Dans la Bible, l'idée de la fermeté de la parole, de notre parole, c'est quelque chose qui est très présent. Ce que je dis, ce que nous disons à foi. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas les contrats. Aujourd'hui, on fait des contrats pour tout et on impose une signature. À l'époque, ça n'existait pas. Et la manière dont on s'engageait officiellement, c'était souvent en prononçant un serment devant quelques témoins. Et Dieu, dont la parole est parfaitement ferme, prend ça très au sérieux. Notre parole doit être ferme. Et Jésus va aller en fait jusqu'au bout de cette logique, en affirmant que ses disciples doivent avoir une parole tellement ferme en elle-même que les serments ne devraient même plus être nécessaires. Regardez Matthieu 5, versets 33 à 37. Matthieu 5, 33, 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est des paroles très fermes et ça doit nous faire réfléchir, en particulier à une époque où la parole aujourd'hui est démultipliée dans nos bouches, mais aussi en ligne sur nos écrans, sur nos téléphones, nos ordinateurs, partout. Et on assiste en réalité aujourd'hui à une véritable inflation de la parole. Alors, démarquons-nous. Démarquons-nous en tant que disciples par une parole ferme. Et cela, j'en suis convaincu, devra peut-être aussi passer par une parole plus rare. Et j'ajouterai encore une parole moins instantanée. Je crois que c'est absolument nécessaire dans le cadre de nos interactions sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a quelques semaines, nous avions les baptêmes. Nous avons des baptêmes. Et l'une de nos jeunes sœurs qui avait témoigné ici a dit dans son témoignage qu'elle avait quitté certains réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mais voilà un exemple tout à fait concret. Une parole moins instantanée permet aussi de ne pas surréagir à chaud, ou en live, ou ne pas rajouter du buzz au buzz. Vous voyez la spirale. En tout cas, nous devons nous poser la question au sujet d'une plus grande rareté de notre parole. Voici ce que Jésus a aussi dit dans Matthieu 12, au verset 36, je vous le lis. « Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Ça fait réfléchir, une telle affirmation, n'est-ce pas? On va maintenant regarder la deuxième qualité que nous avons soulignée au verset 2. La justice. Et aujourd'hui, à notre époque, ce qu'on peut noter, c'est que c'est le droit tend à remplacer la morale. C'est frappant. Vous le constatez tous dans notre société. Le droit remplace la morale. Ce qui est juste, c'est ce qui est autorisé. Et c'est comme ça qu'on décide aujourd'hui ce qui est bon ou pas bon. Et vice-versa, ce qui est autorisé devient juste simplement parce que c'est autorisé. C'est une mécanique particulièrement bien rodée pour promouvoir les idées dites progressistes. Dès que c'est inscrit dans une loi, il n'y a plus matière à débat sur le sujet. Et un exemple récent, je le cite quand même, c'est l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Et puis, vous suivez l'actualité comme moi. Le sujet du moment, c'est la loi sur la fin de vie. Je ne m'étalerai pas dessus. Mais dans cette affaire, on sent bien qu'il y a un vrai problème avec l'aspect moral de la chose, puisque dans le débat public, on évite d'utiliser les mots qui choquent pour décrire la réalité qu'il y a derrière. Mais dans la Bible, c'est Dieu le Créateur qui rend la loi normative et qui fait qu'elle est valable pour tous. C'est Dieu qui fixe la norme. Et la Bible fonde la justice dans la personne et l'œuvre de Dieu. Et la loi de l'Ancien Testament, la loi qu'on appelle loi de Moïse, elle nous révèle partiellement cette justice et cette droiture selon Dieu. Et la personne et l'œuvre de Jésus-Christ la révéleront de façon parfaite. On trouve la description de cet homme juste, cet homme droit, au milieu du verset 3. Il ne fait pas de mal à son semblable, tout simplement. L'homme juste ou la femme juste s'assure de ne pas avoir un comportement qui nuit à l'autre. Et au début du verset 4, ce sens de la justice oriente le regard sur les actes des autres. Il regarde avec répulsion, ou il méprise selon les traductions, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. En d'autres termes, l'homme juste s'indigne du mal, et se réjouit du bien. D'ailleurs, on peut dire en passant que ne pas nuire à son prochain n'exclut pas qu'on puisse porter un regard négatif sur les actions de son prochain, tout en souhaitant son bien. L'homme juste s'indigne du mal et se réjouit du bien. Et puis, on lit au début du verset 5 que cette justice oriente vers des choix très concrets. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Alors, il est question ici du prêt avec intérêt. Cette pratique était interdite par la loi de Moïse, aux Israélites à l'égard d'autres Israélites. Il était préférable de prendre le risque de subir un préjudice plutôt que d'enfermer son prochain dans une dette qui serait insurmontable. Alors aujourd'hui, c'est sûrement pas légitime d'étendre ça de manière universelle et définitive à toute pratique bancaire. Par exemple, aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Ceci dit, même dans notre contexte, qui n'est plus celui de la loi de Moïse, ce verset devrait quand même nous faire réfléchir quant à notre pratique individuelle du prêt ou du don ou de l'aide que nous accordons. Si nous prêtons de l'argent à quelqu'un, est-ce que nous le faisons uniquement pour le bien de la personne? Et ça peut, peut-être ça doit nous faire réfléchir à préférer donner plutôt que prêter, ou d'aider la personne d'une autre manière que de la placer dans une situation de dette. Mais c'est un autre sujet et il n'y a pas là non plus, je pense, de règle absolue et définitive dans tous les cas de figure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un prêt ne doit pas devenir un instrument d'asservissement. Mais la deuxième partie de la phrase évoque une corruption plus directe. La Bible du semeur rend le sens encore un peu plus clair en français en traduisant cette phrase. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Le juste se refuse à porter un faux témoignage ou plus largement à faire du mal à son prochain pour un gain personnel. C'est toujours utile de réfléchir aux versions subtiles des fautes que nous commettons. Je pense bien évidemment que personne dans cette assistance se laisserait soudoyer pour apporter un faux témoignage contre quelqu'un. Mais n'y a-t-il pas le risque parfois subtil de dire du mal de quelqu'un pour obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas de l'argent? Ça peut être pour obtenir de la considération ou pour obtenir un appui dans le cadre d'une discussion un petit peu tendue, pour emporter le morceau, comme on dit, ou simplement pour obtenir de l'influence. Si quelqu'un qui a de l'autorité ou de l'influence sur moi dit du mal d'une personne, la tentation peut être forte, dans le fil de la discussion, de renchérir, d'ajouter ma pierre à l'édifice de la critique ou de la médisance contre cette personne. Et dans le milieu professionnel, ça arrive, facilement. C'est une forme subtile de corruption, mais l'Éternel, il voit parfaitement cette forme subtile. Lui qui regarde au cœur, ça a été cité la semaine dernière, il regarde au cœur, il connaît nos cœurs et il demande de fuir l'injustice. Alors on arrive maintenant à la fin de notre psaume avec cette question. Qu'est-ce que Dieu promet à celui ou à celle qui vit comme on vient de le voir ensemble? Regardons la fin du verset 5. La réponse est somme toute assez simple et courte. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dieu promet une parfaite sécurité à celui qui vit dans l'intégrité et la justice. Il n'y a pas de lieu plus sûr que la demeure du Seigneur, sa présence, la communion avec lui. Un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs, nous dit la parole dans un autre psaume. Alors, de ce côté-ci de l'éternité, ne jamais chanceler ne signifie pas qu'on n'aura jamais de difficultés. Chanceler, ça veut dire manquer de solidité. Ne jamais chanceler, c'est plutôt une manière de dire qu'en définitive, malgré les coups de boutoir, et certains en reçoivent des coups de boutoir, malgré les coups de boutoir reçus dans notre vie, notre place auprès de Dieu est assurée. Et c'est ça qui sera jamais remis en question. L'Éternel nous dit donc ici que celui ou celle qui a sa place dans sa maison, c'est tout simplement celui ou celle qui vit d'une manière juste, qui cherche le bien de son prochain, qui utilise bien sa parole. Vous conviendrez avec moi, il y a de quoi être finalement frappé par la simplicité. Très simple ce portrait. Alors si on résume donc le message de ce psaume, on peut conclure qu'à la question « Qui peut séjourner auprès de Dieu dans sa demeure ?» le psaume répond « Celui qui cherche la justice et l'intégrité dans ses paroles comme dans ses actes. » Mais, il y a un mais. Mais dans un sens, le psaume ne répond que très partiellement. Le psaume ne répond que très partiellement à la question si pénétrante du verset 1. Et pourquoi est-ce que cette question demeure malgré tout? Eh bien, parce qu'aucun être humain, en fait, ne peut prétendre vivre de façon conséquente et cohérente comme l'homme décrit dans ce psaume. Personne. Et c'est là que l'Évangile est si précieux. C'est un peu comme si ce psaume appelait l'Évangile de ses vœux. Il nous donne envie d'en savoir plus. Le psaume titille en quelque sorte le lecteur par ce verset 1. Qui peut demeurer auprès du Seigneur? Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous permet de répondre cette fois-ci entièrement et définitivement à cette question. Et cela de deux manières. D'abord, en soulignant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui l'homme juste, l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus n'a jamais démérité aux yeux de Dieu. Il a toujours été d'une parfaite intégrité et d'une parfaite justice. Sa parole a toujours été vraie et ferme, et elle l'est toujours. Et la deuxième réponse que nous pouvons apporter par l'Évangile à la question du verset 1, c'est que si nous recevons le pardon que Dieu nous offre par Jésus-Christ, pardon accompli, les éléments sont là, accompli par sa mort à notre place et sa résurrection, eh bien c'est la parfaite justice de Jésus qui est mise à notre crédit. Et là, Dieu nous voit alors dans le cadre de sa relation avec nous, non plus par le prisme ou par les lunettes de notre injustice, mais au lieu de cela, ce qu'il voit, c'est la parfaite justice de Jésus-Christ qui est appliquée à nos vies, comme transférée à notre personne. En Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Et nous pourrons alors séjourner dans la tente de Dieu et demeurer, rester sur sa montagne sainte. Libérés de notre culpabilité, purifiés une fois pour toutes, déclarés saints par le pardon qui nous est offert, nous pouvons, malgré nos insuffisances et nos fautes, nous pouvons, par cette justice qui nous a été donnée, et par cette purification, demeurer dans la présence de Dieu. Et confiant alors que nous ne serons plus condamnés par la justice de Dieu, nous pouvons maintenant, et nous devons le faire, aspirer de tout notre cœur à vivre en cohérence avec notre appel. Nous pouvons aspirer chaque jour à être des hommes et des femmes intègres et justes, dont les paroles sont fermes, qui font le bien autour d'eux. Et nous pouvons y aspirer en puisant chaque jour dans la grâce de Dieu, chaque jour. Et ainsi, à la toute fin, la réponse à la question posée au début de notre psaume, « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Eh bien, la réponse, c'est Jésus-Christ et tous ceux qui lui ont confié leur vie. Et là, c'est formidable. Par le Saint-Esprit, nous avons déjà droit de citer dans sa demeure. Nous avons déjà, si on peut dire, reçu notre permis de séjour, valable éternellement. Et un jour, lorsque Dieu aura fait toute chose nouvelle, nous vivrons cette présence de Dieu, cette fois-ci dans sa plénitude. Dès aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers amis, recherchons notre joie, notre paix, le sens de notre vie dans une relation avec Dieu qui grandit jour après jour. Préparons-nous, ayons hâte de ce jour où nous le verrons face à face. Psaume 15, un petit psaume, mais un grand appel à vivre en disciple intègre et juste dans la société d'aujourd'hui. Et la promesse magnifique qui sert de conclusion à ce psaume est là aussi pour nous servir d'encouragement chaque jour. Amen.